Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Est-ce que cette idée t'a déjà traversé l'esprit? Est-ce que tu rêves un jour, en tant que prof de yoga, d'avoir ton propre yoga teacher training? Et si c'est le cas, qu'en est-il du Saint Graal de la certification Yoga Alliance? D'ailleurs, est-ce vraiment une certification? Ou plutôt un enregistrement, comme l'indique le sigle RIS Registered Yoga School, dans un répertoire sur base d'échanges, d'argent et de documents? Sur une proposition de Rosa Aguilera, prof de yoga et école de formation Yoga Alliance, nous allons dans l'épisode d'aujourd'hui aborder le parcours d'accréditation Yoga Alliance pour essayer d'y voir un peu plus clair. Qu'est-ce que Yoga Alliance? Pourquoi cette organisation est à la fois controversée par certains et reconnue comme gage de qualité par d'autres? Quels sont les différents parcours Yoga Alliance et les critères pour obtenir l'accréditation, les accréditations? Qui peut se lancer dans cette certification et à quoi s'attendre? Je vous emmène dans l'épisode d'aujourd'hui, dans les coulisses de ce sujet très concret et peu souvent abordé avec mon invité du jour. Bienvenue Rosa, je suis ravie de t'accueillir sur YogiBiz Podcast aujourd'hui.
Merci beaucoup, moi aussi je suis très ravie.
Alors Rosa, moi je te connais, je te suis sur Instagram, mais est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, savoir un petit peu qui tu es dans la vie et dans l'univers du yoga?
Bien sûr, bon déjà c'est probablement notable mon accent, je suis espagnole, je viens de Séville. Je suis arrivée en France en 2013, je vis à Marseille actuellement depuis 2013 et ça fait maintenant 16 ans que je commence à pratiquer du yoga. Sinon, basiquement, j'ai toujours fait des arts de mouvement, donc du cirque et du théâtre physique. Et après ma carrière de trapéziste et comédienne, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à l'enseignement du yoga. J'ai fait environ 10 ans de hatha dans lesquels j'ai enseigné en plus gratuitement. Et après ces temps-là, je me suis intéressée à l'ashtanga et à l'agro-yoga de formes beaucoup plus dynamiques au yoga aérien. Et donc environ depuis 2015, je commençais à me former. Et il y a maintenant 3 ans, j'ai entamé un parcours de création d'école. Donc maintenant, je crée une école qui s'appelle Yoga de Sud, qui forme des professeurs toujours sur Marseille.
Mais oui, et c'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Excellente transition. Donc un sujet un petit peu touchy, je pense, pour beaucoup de profs de yoga, le parcours de certification Yoga Alliance. Donc on va essayer ensemble de détricoter, de décrypter un petit peu tout ça. Et est-ce que déjà pour commencer, on peut... bien repréciser ce qu'est Yoga Alliance, ou en tout cas, est-ce que toi, tu peux nous l'expliquer avec tes mots?
Totalement. Alors, Yoga Alliance, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une école et ce n'est pas du tout un organisme qui forme, c'est une association. Bon, ils disent que c'est une association sans but lucratif, chose qui peut se questionner, mais voilà, Yoga Alliance, c'est une association qui répertorie, c'est le plus grand répertoire des profs et d'écoles de yoga du monde. Il y a aussi une Yoga Alliance indienne. Quand on tape Yoga Alliance sur Google, on va se retrouver avec Yoga Alliance International et Yoga Alliance indienne qui proposent aussi une sorte de répertoire. Et puis, il y a plein d'autres fédérations.
D'accord. OK. Il y a un équivalent en France ou pas du tout?
Non, pas exactement. En France, il y a la Fédération française du yoga et d'autres fédérations. La différence entre une fédération et la Yoga Alliance, c'est que la Yoga Alliance a créé une sorte de catégorie de certification avec des standards, des catégories aussi éducatives. et plein d'autres outils. Donc et maintenant, ils sont aussi créé une fondation à côté qui donne des bourses et qui a aussi aidé certains professeurs pendant la pandémie, par exemple. Mmh. Et ils sont plusieurs branches d'action. Donc les fédérations françaises, elles sont petites par rapport à ça, elles ne sont pas les mêmes fonctions.
D'accord, ok. Et donc c'est vrai que en tout cas quand on recherche soi-même à faire son yoga teacher training, souvent on recherche le fait qu'il soit certifié Yoga Alliance. Alors je crois toi-même que tu es certifié. Alors j'ai vu hein, 200 RIS, 500 RIS, mais je suis pas sûre d'avoir bien tout compris. Est-ce que tu peux nous expliquer ça veut dire quoi tout ça exactement, en quoi c'est important, enfin c'est quoi l'intérêt de cette certification? Voilà, est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu déjà là-dessus?
Oui. Donc, peut-être commencer par dire qu'il n'y a actuellement aucune certification de yoga mondiale qui soit vraiment reconnue, parce que le yoga en soi, pour ses caractéristiques philosophiques, physiques, culturelles, etc., on a du mal à les mettre dans son caisse, chose que je considère plutôt positive. Mais sauf le ministère du yoga en Inde, il n'y a aucun autre organisme qui vraiment régule le yoga de façon mondiale ou même en France. La Yoga Alliance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle répertorie les profs qui sont certifiés avec ces standards à elle. Et pour avoir ces standards à elle, soit comme prof, soit comme école, il faut suivre un parcours qui est d'abord un parcours de formation, puis un parcours de création de formation si on devient école. Et donc, et moi, personnellement, j'ai un parcours Yoga Alliance comme prof. Je suis certifiée RAIT 500. Je suis aussi IACEP, formateur continu, formatrice continue. Mm-hmm. Et comme école, nous sommes RAIS 200. Nous pouvons former des profs jusqu'à 200 heures avec un programme de yoga Vinyasa. Si je veux créer une autre formation, il faut d'abord que je recrée un autre programme et que je demande à nouveau l'évaluation de ce programme, qui après on va parler comment ça s'est fait cette évaluation. Et je pourrais à partir de cette année être aussi RAIS 500 avec notre école. Donc on pourra aussi proposer des formations de 300 ou 200 heures.
D'accord. Alors, en fait, il y a un parcours pour soi en tant que prof. Il y a un parcours qu'on peut faire en tant que prof et il y a un parcours qu'on peut faire en tant qu'école, c'est ça ?
Exactement.
D'accord.
Mais chaque école doit avoir des profs qui ont été formés déjà par soit la DIA, la Yoga Alliance, soit des professionnels qu'on peut inclure. Mais il faut avoir un lead trainer qui soit formé par Yoga Alliance, et les autres 50 heures, par exemple en 200 heures, peuvent être données par des professeurs qui ne soient pas Yoga Alliance. Dans mon cas, j'ai une psychothérapeute, j'ai aussi une kiné, un chirurgien. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir 100% des professeurs Yoga Alliance.
D'accord.
Mais en partie, oui.
D'accord. Et si je suis professeur indépendant, je dois créer une école pour pouvoir enseigner à 200 heures ou pas?
Tout à fait.
Oui, c'est ça. J'ai bien...
Soit tu crées une école, soit tu peux enseigner dans une école qui a son propre programme. Mais pour cette procédure, donc par exemple moi, si je suis appelée à enseigner dans un autre organisme qui soit pas mon école, je dois quand même avoir RIT 200 pour une formation de 200 heures,
ouais.
Ou RIT 500 pour une formation de 500 heures. Okay. En tant que prof, en tant qu'école, c'est RIS 200, RIS 500.
C'est quoi la différence entre, ça veut dire quoi exactement l'acronyme RIT et RIS?
Je vais te l'expliquer. Alors, je vais expliquer un peu tous les types de certifications. Ça va être un peu long, mais je pense que ça vaut la peine. Donc, on commence par la plus basique, RIT 200. RIT 200, ça veut dire que tu fais une formation de 200 heures dans laquelle il y a toutes les matières basiques qui sont techniques, formation et pratique, méthodologie et enseignement, anatomie et physiologie, philosophie, style de vie et éthique du yoga, et qu'elles sont réparties plus ou moins de la façon dont la Yoga Alliance a approuvé pour l'école.
Oui.
Donc, je fais cette formation, je suis RIT, je peux donner des cours.
Et RIT, ça veut dire quoi? RIT?
Ça veut dire Royal Yoga Teacher, ou quelque chose comme ça.
Okay.
Donc R était 200, c'est ça. À partir de que j'ai donné 200 des formations, environ 1000 heures de formation à des élèves normaux dans des cours, je peux être ERET 200. Donc ça veut dire que je suis ERET avec expérience, Experience Royal Yoga Teacher. Et donc, je peux aussi commencer le parcours de donner des cours dans des formations des 200 heures. Pas créer la formation, mais intervenir, parce que j'ai suffisamment d'expérience. RET 500, c'est la même chose, mais avec 500 heures. Donc, tu peux soit faire un autre teacher training en entier des 500 heures. Ouais. Imagine que je me forme, ça a été mon cas, moi je fais une formation d'errata au début des 120 heures et après je fais 600 heures en ashtanga, je n'ai fait 250 et 350. Oui, j'ai plus de, je ne sais pas combien de milliers de formations que je n'ai pas. Donc, RIT 500, ça sera après avoir fait 500 heures ou 300 heures qui complètent les premières 200. Il faut que j'enseigne 2000 heures. Et à partir de là, je peux intervenir dans des formations des 500 heures.
D'accord.
Donc ça, c'est les quatre premières certifications. Et puis, il y a une autre certification qu'on peut avoir qui s'appelle DIASEP. DIASEP, ça veut dire que j'ai une expertise. Donc, quand tu as une expertise, par exemple, toi, tu pourrais très bien être DIASEP, communication et marketing. Donc, ça rentrerait... Tu peux, parce que tu peux rentrer soit en méthodologie de l'enseignement, soit en aspect professionnel, par exemple. Et donc, tu pourrais créer des formations certifiées Yoga Alliance parce que tu serais expertise, tu serais experte dans ta matière. Donc, ça, c'est YACEP. Et tout ça, c'est réfère plutôt à des cours, à des workshops et ateliers dédiés à une catégorie très, très spécifique. Si je vais faire, par exemple, de l'acro-yoga, les formations d'acro-yoga qu'on donne sont YACEP. Ne sont plus. Et puis, pour une école, on peut être RIS 200. Ça veut dire que j'ai créé une formation de 200 heures et que j'ai fait tout un parcours, que j'ai créé un syllabus, que j'ai écrit un manuel, que j'ai rassemblé une équipe de profs, que j'ai respecté les catégories... et que j'ai laissé organiser de façon que ça soit conséquent pour les standards de Yoga Alliance qui sont un peu stricts. Et puis, je envoie tout ça en évaluation. Je suis approuvée ou pas. Parfois, il faut repasser l'examen. Moi, je l'ai repassé une fois. Et après, ta candidature est approuvée. Donc, tu peux donner la certification à des profs. Et tu peux aussi vendre ton programme à une autre école.
D'accord.
Si tu veux. Tu peux vendre ta formation à notre école et dire, bon, moi, je peux pas la... Je sais pas, je suis enceinte, je peux pas continuer à donner ma formation, mais je te permets de prendre ma formation et de la faire toi-même avec un autre prof qui soit également qualifié.
Qui soit... oui, qui aura aussi son école. Donc, il sera aussi RIS 200. Non, il sera RIT.
Il peut être RIT 200 sans être école parce que moi, je lui propose d'utiliser mon programme.
Ton process, quoi. D'accord, ok. C'est hyper ça. Clair. Hein. T'es, franchement, c'est génial.
Merci.
Ça rend les choses beaucoup plus simples.
Et puis, il y a encore deux catégories.
RIS, ça veut dire quoi? Donc, Royal Yoga...
RIS, ça veut dire Royal Yoga School. Donc, c'est Teacher School.
Très bien.
Et donc, il y a aussi 300, donc c'est la même chose, mais pour un programme des 300 heures. Et puis, il y a aussi deux nouveaux standards, deux nouvelles catégories plutôt, qui sont RSC-IT, ça veut dire Royal Children Yoga School, et RPIT, qui ça veut dire Royal Prénatal Yoga School or Teacher. C'est les deux catégories nouvelles. Qui sont des formations spécifiques pour enseigner aux enfants et pour enseigner yoga prénatal.
Ah, ok. Et quand tu dis c'est des nouvelles formations, ça fait combien de temps qu'elles existent, celles-ci?
Je pense que ça existe depuis le début de cette année. Ils sont réactualisés. Il y a une réforme très intéressante. Ils ont fait une statistique très, très poussés. Ils ont évalué l'opinion, l'avis des plans d'élèves, des professeurs, des écoles et d'experts pour voir s'il fallait monter les standards des formations. Sincèrement aussi, je crois que pour d'un côté, parce qu'il s'est passé n'importe quoi, tout le monde était certifié, tout le monde donnait les certifications comme des bonbons à la sortie d'une école. Et puis, ils ont aussi des cas, des plaintes d'élèves qui ont été abusés dans des écoles. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont fait que la Yoga Alliance a dû se re-questionner ces standards. Et donc, ces standards ont été révisés et la révision a fini en février 2019.
D'accord, ok. Ouais, donc c'est quand même intéressant de voir que ça reste pas poussiéreux quand même. Ils font quand même attention au feedback et...
Tout à fait. Et puis, c'est très intéressant aussi voir que les personnes qui ont participé à l'enquête, moi, j'ai participé aussi, ils avaient tous envie de monter un peu les standards, en sachant que pour les écoles, c'est beaucoup de travail en plus. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'obtenir une certification qu'il y a 200 ou 300, que toutes les écoles qu'elles avaient déjà, ils doivent la repasser, qu'il faut la repasser chaque 300 maintenant. Donc, il suffit pas de la passer une fois. Dans 300, il faut revenir à passer la certification.
Ah, d'accord, ok. Et mince, j'avais une question. Ah oui, une petite question qui me vient du coup là, parce que ils ont réévalué tout ça, donc par rapport à des retours. Est-ce que c'est obligatoire à la fin d'un yoga teacher training de soumettre une enquête de... Enfin, est-ce qu'il y a une enquête de, pas de satisfaction, tu sais, mais un petit peu voilà, dans ce sens-là, qui remonte à Yoga Alliance quand on participe à un yoga teacher training?
Alors non, et non. Ça c'est une partie que je pense qui est un peu dommage. Ouais. Une fois que tu as passé le processus d'admission comme école, il n'y a pas de contrôle sur les écoles ni sur les élèves.
D'accord, non. Ok.
Et ça c'est très dommage. Je trouve que effectivement la Yoga Alliance a beaucoup de bienfaits. Ils font un bon travail en tant que référencement. Ils essayent aussi de se rapprocher beaucoup des standards américains de l'université. Mais en même temps ils contrôlent rien. Donc une fois que tu as fait le processus, ou même si je vends les programmes à quelqu'un, il y a zéro contrôle sur comment ça se déroule vraiment après.
Ouais, ça c'est quand même dommage, c'est vrai. Ouais. Ok, alors du coup on a bien compris le parcours. Donc là, tu nous as parlé un petit peu finalement des standards ou Yoga Alliance aussi, hein, c'est ce qu'on a abordé un petit peu, ou tu as des choses à compléter par rapport à ça?
Waouh, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup. Alors, les critères, donc, en tant que prof, déjà, il faut tout simplement se former avec une école qui soit Yoga Alliance. En même temps, il faudrait aussi après s'inscrire dans son registre, dans son répertoire, enregistrer à chaque fois les heures, à chaque fois que tu enseignes par exemple, il faut les enregistrer. Et puis il faut savoir que c'est obligatoire pour maintenir ta certification en tant que prof de te former chaque année, donc ça se contrôle au bout de 300, je crois. Je pense que c'est environ 30 heures ou 50 heures de formation continue, donc environ 10 heures par an. C'est pas énorme, mais bon, il faut que ça soit toujours dans la certification Yoga Alliance, malgré que tu peux ajouter des heures que tu as fait dans d'autres choses. Et pour les profs qui ont beaucoup d'expérience aussi, mais qui ne sont pas été formés en Yoga Alliance, ils peuvent obtenir la certification, sans formation, en passant par un processus d'évaluation personnelle. Et tout ça, il faut les payer. Il faut savoir aussi que tout ça a un coût économique. Ouais.
Oui, alors justement, c'était aussi une de mes questions. Alors, je ne sais pas si tu as fini là sur les standards Yoga Alliance, mais après, j'aimerais bien qu'on aborde le prix.
On va aborder les prix, ça c'est pour les profs. Donc pour les profs, c'est ça. Et puis il y a des profils, donc il faut rentrer dans leur site, remplir les profils. En tant qu'IACEP, il faut animer le profil aussi avec les workshops, les formations courtes, toutes les choses que tu organises. Et ils ont aussi un code de conduite qu'on doit signer et qu'on est obligé à suivre. C'est très américain. Et je dirais que ces codes de conduite parlent beaucoup de comment on touche pas, etc.
D'accord.
Voilà. Je dirais aussi que c'est plutôt pour se protéger eux que pour protéger les élèves. Mais bon, C'est bien parce qu'au moins il y a un code de conduite, c'est vrai que ça encadre un peu, que ça pose un cadre. Et aussi, il faut avoir des conditions de vente également, que si tu es une école, par exemple, DataDocket ou Qualopifi en France, il faut avoir des conditions de vente, des conditions d'annulation, etc. Tout ça, ça doit être très, très clair. En tant qu'école, il faut respecter les catégories suivantes. Technique, formation et pratique. Donc tout ça, ça veut dire comment pratiquer les yogas, donc les asanas, pranayama, kriya, chant des mantras, méditation et autres techniques traditionnelles. Tout ça qu'on appelle la sadhana. La méthodologie d'enseignement. Ça, c'est la deuxième catégorie. C'est comment enseigner efficacement, donc c'est la dynamique des groupes, gestion du temps, priorité d'enseignement, comment répondre aux besoins spécifiques, adapter le yoga à chaque contexte, à chaque type de groupe, diversifier la population, comment intégrer des personnes qui, par exemple, je ne sais pas, je peux avoir un élève transsexuel, je peux avoir un élève aveugle, je peux avoir un élève malentendant, etc. Marketing et communication rentrent aussi dans cette catégorie. Toute la partie professionnelle qui est d'actualité en plus pour toi. Et puis, anatomie et physiologie, qui inclut l'anatomie et physiologie, bien sûr la biomécanique, l'anatomie fonctionnelle, mais aussi l'énergétique. Donc, tout le système énergétique des nadis, chakras, toute la partie qui correspond au corps physique, mais aussi au corps subtil. Et on n'a pas fini la catégorie. Tout ça en deux sens. Philosophie, style de vie et éthique du yoga. Donc là, ça va être histoire, sanskrit, philosophie du yoga, éthique, tout la pratique qui englobe un peu comme les yama et niyama, comme les textes classiques, comme comprendre les parcours de ton école aussi. Si j'ai fait de l'ashtanga, c'est pas le même parcours que si j'ai fait du kundalini. Donc comprendre aussi un peu, encadrer toute cette philosophie, cet style de vie. Ça, c'est les catégories que ton programme doit respecter. Et c'est en plus stéréotypé combien d'heures tu dois donner de chaque catégorie. Je vais pas les dire maintenant parce que ça serait super long. Mais voilà, c'est ça qu'il faut respecter. Et aussi, comme école, comme je l'ai dit avant, il faut repasser une évaluation chaque 300 et refaire à chaque programme. Donc, si maintenant je pense que je vais créer un programme des 300 heures, oui, Hatha Vinyasa. Donc, il faut que je refasse tous les processus avec un nouveau programme, un manuel nouveau, etc.
Ouais, c'est du job, hein, quand on se lance là-dedans. Il faut vraiment être passionné, hein, parce que...
Si.
C'est énorme. Et il y a des formations qui ne sont en revanche pas certifiées, c'est ça ?
Oui, toutes les formations... alors, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on peut créer une formation, en France et partout dans le monde, on peut créer une formation de yoga pas certifiée ou certifiée par d'autres organismes, en sachant que le mot certification, il n'est jamais vraiment, vraiment bien appliqué dans ces cas-là, parce que ce n'est pas une certification. Là, dans ces cas, c'est un registre.
Oui.
Ah, d'ailleurs, c'est ça, c'est pas royal, c'est Registered Yoga Teacher, Registered Yoga School. C'est c'est un registre que Yoga Alliance fait avec ses standards, et dans les cas de la fédération de yoga, c'est fédéré, comme si tu te fédères en escalade.
Oui, oui.
Tu es fédéré dans un organisme qui dit que tu pratiques et que tu proposes des formations, mais certifié, il n'y a rien. Donc, ouais, tu peux fournir des formations, mais jamais elles seront certifiées. Même les organismes qui disent, quand ils sont DataDocket ou Qualiopifi, par exemple, je donne une certification, c'est faux. Il faut savoir que DataDoc et Qualiopi, parce que nous, on est en train de les faire aussi, c'est également un label de qualité. Donc, ça veut dire que tu as une qualité, mais ce n'est pas une certification.
Ouais. Mais alors, du coup, si je peux proposer des formations sans être Yoga Alliance, pourquoi du coup se donner la peine d'être Yoga Alliance alors ? Enfin, je sais pas si ma question a du sens, hein, mais.
Parce que même si ce n'est pas obligatoire, c'est reconnu. Je pense que d'accord. Ça, c'est la première question. C'est un peu bâton, mais on le sait. c'est reconnu. C'est vrai qu'en même temps, moi, par exemple, en tant qu'Espagnol, j'ai vécu dans plein d'autres pays et je cite encore, j'ai envie vraiment de créer peut-être une école au Mexique. J'ai d'autres projets qui ne sont pas forcément en France. C'est la certification qui est la plus reconnue mondialement et ça reste quand même un réseau. Donc c'est un peu comme la question de bon, mais si tu peux vendre tes formations en dehors d'Instagram, pourquoi aller faire un Instagram et passer 3 heures par jour? Parce que ça marche. Donc il y a une raison commerciale, il y a aussi une raison de qualité. C'est vrai que quand même c'est des standards, ouais. Et que c'est un processus d'évaluation qui est costaud et qui assure un cadre soit à l'école soit à l'élève, et en même temps c'est prouvable. Je veux dire, derrière il y a des syllabus, il y a plein de documents qui sont là, il y a un programme d'études, il y a des modules de formation réfléchis, il y a un manuel. Et puis je pense que comme aucun gouvernement, aucun ministère, ni de la culture ni des sports, s'est pris le travail de les faire, eux ils ont pris le créneau un peu et ils ont fait ça à l'américaine, mais ils l'ont fait. Et je pense que pendant qu'il n'y a pas un autre organisme, moi, ça me rassure plus en tant que prof d'abord et puis en tant qu'école d'avoir au moins un processus dans lequel je peux assurer aux élèves qu'ils vont être évalués avec un critère qui ne soit pas le mien, qui est un critère commun.
C'est très objectif du coup aussi, ouais.
Oui. Donc, mine de rien, ça assure quand même une chose plus équitable, un peu plus carrée, un peu plus claire, même si elle n'est pas la parfaite, elle n'est pas la meilleure peut-être. Je trouve qu'il y a d'autres parcours qui peuvent être super bien. Hein. À Iyengar, par exemple, les écoles d'Iyengar, elles ne sont pas toutes Yoga Alliance. Et elles ont ces certifications à eux avec ses propres critères, mais les critères sont clairs aussi. Puis un 2E, un diplôme d'État en France, comme c'est le cas du cirque d'où je viens, ils ont aussi ces critères à eux, donc c'est bien. Inch'Allah, j'aimerais bien qu'il y ait un 2E yoga, un diplôme d'État yoga, ça serait vraiment très bien. Je pense que ça serait une très bonne solution, parce que c'est la chose qui, pour moi, se rapproche le plus.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que j'imagine qu'on peut se dire, non, mais dans ce cas-là, pourquoi passer par là? Mais tout ce que tu nous dis éclaire cette question. Et alors, si on parle sous maintenant, donc c'est quoi le coût de tout ça?
Alors, à part de ton coût de formation, les coûts d'inscription, la première fois, c'est $120, donc ça équivaut à... Je pense que c'est 100 euros plus ou moins. Et puis par an, tu payes environ 50 euros en tant que professeur. À chaque fois que tu vas monter des niveaux, donc que tu as une nouvelle certification, donc si je suis RIT 200, je veux passer à RIT 500, je dois repayer $50 de plus. Donc ça reviendra à $100 cette année et l'année d'après, ça sera à nouveau 50. Et puis, IACEP, c'est environ une vingtaine d'euros par année. Ce n'est pas très cher. Et puis, pour les écoles, c'est cher. La première fois, c'est 640 euros. Et à partir de là, tout repaye 400 et quelques euros par an. Et puis, à chaque fois que tu représentes un programme nouveau, il faut repayer... la validation du programme qui vient aussi à être 600 et quelques euros.
D'accord. Et tout à l'heure, tu nous as dit qu'on pouvait, entre guillemets, redoubler dans le sens où, par exemple, pour une école, la formation que tu vas proposer ne peut ne pas être acceptée la première fois. Et dans ce cas-là, tu repayes aussi ou
Non, la première fois, tu ne repayes pas. Tu as quand même une audite. Une sorte d'audit avec Yoga Alliance. Moi, j'en ai eu deux. J'ai eu la chance d'avoir deux parce qu'ils ont fait l'effort de trouver quelqu'un qui parlait espagnol parce qu'ils n'avaient personne qui parlait français. Moi, j'ai présenté tous les documents en français. Je pense que des gens pourraient parler un tout petit peu pour les personnes qui sont intéressées à les faire.
Oui, c'est vrai.
De la question langue qui est très présente en France. Donc, voilà. Moi, personnellement, je parle cette langue et je travaille en 5. Donc, français, anglais, espagnol, italien et portugais. Donc, j'ai présenté le programme en français parce que c'était le programme de mon école à Marseille. C'est le programme que j'allais présenter pour cette école. Donc, pour lire les documents et tout ça, ils se sont débrouillés, mais pour faire l'audit, ils ont cherché quelqu'un d'espagnol parce qu'ils ne trouvaient pas quelqu'un qui parlait français.
Ah, ouais.
Voilà. Donc, les documents, on peut les présenter dans sa langue. Si vous voulez faire votre programme d'école, c'est possible de les faire en français. Pour l'audit, je vous conseille de les faire soit en anglais, soit en espagnol, soit vraiment les pressionner un tout petit peu, les appeler, les écrire des mails et leur dire « on vous paye bien pour faire ça okay. ». Débrouillez-vous pour trouver quelqu'un qui travaille dans ma langue.
Ouais, et parce sinon, que ça complique quand même vachement le truc de devoir présenter l'audit en anglais ou dans une autre langue quand même. C'est chaud.
Mais bien sûr. Après, j'aime bien être polyglotte et je crois que aussi il faut ouvrir un peu sa tête et savoir apprendre dans plusieurs langues. Ça évite de vieillir.
Ouais.
Les neurones vont être contents.
C'est clair.
Mais je vais vous donner une astuce. Là, c'est bonus, astuce propre que je donnerai seulement dans ce podcast. Si vous allez à Google, il y a une extension en haut que vous pouvez installer dans les Google Search qui traduit la page en français. Donc, toutes les informations apparaissent magiquement en français. Et j'ai découvert ça après galérer beaucoup. Ouais, parce qu'au début, je devais faire Google Translate avec toute la page pour la comprendre pleinement. Google Translate, c'est pas toujours la meilleure chose. Et là, bon, il me traduit au moins en français d'abord et comme ça, je peux préparer plus facilement les lives comme celui-ci.
Ouais, d'accord. Ah ben merci pour l'astuce bonus. Merci Rosa. Mais non, c'est quand même du sport, hein, toute cette certification.
Si.
Alors du coup, ça serait quoi, toi, tes conseils par rapport à tout ça? Par quoi commencer? Enfin, voilà, si on imagine se lancer, quels sont tes conseils?
Bien. Bon, mes conseils sont d'abord, c'est former beaucoup. Moi, personnellement, j'ai une grande passion pour l'enseignement. J'ai une grande passion pour les yoga, mais l'enseignement, pour moi, a commencé très tôt, beaucoup plus tôt que les yoga en soi. J'ai commencé à enseigner quand j'avais 16 ans. J'ai 41 aujourd'hui, donc ça fait 26 ans que j'enseigne. Ouais. J'ai commencé à enseigner du théâtre, mais je pense que la première chose, si on veut former, c'est être formé correctement et avoir un tout petit peu d'expertise, pour deux raisons. Comme tu sais bien, déjà rien que pour vendre, pour pouvoir vivre de ça qu'on fait, qui est un métier quand même dur, compétitif, pas reconnu, pas très clair. Si tu as un tout petit peu d'expertise et une bonne formation et que tu connais bien, tu pourras avoir quatre pattes dans ta table d'enseignement et très bien sûr du processus que tu entends. Sans parler de yoga, là, il y a 5 heures, hein, tout simplement, si tu veux t'initier. Comme anecdote, je commençais à me dire « je veux créer une école » quand j'ai connu une personne qui donnait des formations qui étaient totalement pourries. Et je me suis dit « c'est pas possible, j'ai envie de proposer quelque chose de mieux ». Et je trouve très dommage quand je trouve des formations qui sont pas bien. Ouais. Parce que la formation est quelque chose de passionnant et c'est beau quand tu trouves quelqu'un qui vraiment te donne des outils et t'accompagne. Et donc pour Yoga Alliance, il faut commencer par se former avec Yoga Alliance évidemment, et avoir au minimum un RAS, puis avoir 200 d'expérience et 1000 heures d'enseignement. Donc c'est un peu la répétition, mais il faut avoir un peu d'expérience. Et puis si on veut devenir école, je conseillerais d'abord de demander carrément à d'autres écoles ou à d'autres profs qui ont créé des formations à vous donner des informations sur leur syllabus, leur programme. Vous allez peut-être penser « Ah, mais qui va me donner ça ?» Mais non, mais en fait, il y a même sur Internet des programmes qui sont en ligne et je pense que tout le monde a envie d'accompagner aussi. Moi, je suis aussi... j'ai toujours envie d'accompagner un tout petit peu, même si j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, il faut aussi avoir soit une bonne équipe, soit être très doué pour pouvoir organiser cette syllabus. Syllabus, c'est le programme. Donc, il faut quand même avoir ambition de champ très, très grande pour pouvoir organiser les contenus. Donc, si tu ne l'as pas, il faut faire appel à d'autres professionnels qui vont te dire, par exemple, dans mon cas, c'était, bon, comment j'organise la partie histoire, philosophie. Donc, j'ai appelé la prof avec laquelle je m'étais formée les deux dernières formations qui m'avaient beaucoup plu. Et je lui ai dit, Hannah, est-ce que tu veux venir dans ma formation pour structurer ça, etc. Une autre chose importante, c'est de créer un manuel. Donc, pour créer le manuel, pareil, il faut dédier un temps. Donc, savoir qu'il va falloir dédier du temps de ta vie à écrire. Ou bien, une autre option, ça serait de créer avec ton équipe un manuel où chacun écrit une petite partie. Et peut-être... il y a des copywriters, il y a des personnes qui écrivent des pages web. Ouais. Je pense que ça serait un métier à créer. Écrivain de manuels de yoga.
Ah yes, voilà une excellente niche. Avis aux profs de yoga qui voudraient faire ça. Enfin donc avec des qualités de copywriter, mais effectivement c'est une excellente idée.
Dans mon cas, c'était, j'ai écrit mon manuel, c'était avec beaucoup de joie et beaucoup de souffrance, les deux, c'était vraiment un accouchement.
J'imagine, bah, ça doit être comme quand on écrit un livre, quoi, hein. Je pense qu'on passe par toutes les émotions.
Surtout quand on n'écrit pas dans ta langue maternelle.
Ah oui, en plus.
Donc, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup d'amis qui ont fait les corrections et j'ai continué à les faire et à les réviser à chaque année. Et il y a toujours des choses à améliorer.
Et ce manuel, c'est ce que tu présentes à la certification, hein, c'est ça?
Tu présentes les manuels, mais aussi il y a d'autres documents. Donc en gros, tu dois présenter un document dans lequel tous les modules sont décortiqués. Donc tu dis qu'est-ce qui va être fait dans chaque module, comment ça va être évalué. Il faut aussi avoir différents types d'évaluation. Donc évaluation un peu comme en France, à chaud, à froid, avec différents supports. Il faut que tu présentes aussi tous les supports que tu vas utiliser, soit vidéo, document PDF, si tu utilises Quiz, si tu utilises d'autres supports. Et puis il faut aussi présenter les calendriers de la formation, donc combien d'heures par jour tu vas travailler et de quelle façon cet horaire est organisé, en sachant que tu ne peux pas travailler plus d'un nombre d'heures par jour, etc. Et puis il faut présenter le manuel et puis tu passes un audit. Dans mon cas, j'avais passé un audit parce que il y avait des choses qui n'étaient pas suffisamment claires dans le déroulement de chaque module.
D'accord.
Et en fait, c'était parce que j'avais rempli tous les modules en anglais et j'avais envoyé le manuel et les syllabus en me disant « Bon, mais ça va passer parce que de toute façon, ils vont voir que le manuel, c'est bien, que tout ça. » Mais en fait, ce n'est pas la même personne qui lit une chose que l'autre. Donc, ils sont une équipe qui est une partie va lire ça, une partie... Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Non, mais en fait, il te manque des choses dans ces documents. » Donc, en fait, j'ai dû un peu refaire l'audit et finalement, ça a passé. Donc, c'est, voilà, c'est un vrai travail. Ah, c'est un vrai travail très, très poussé, oui.
C'est passionnant de t'écouter en parler, mais effectivement, je pense qu'on se rend bien compte aussi de la charge de travail, de l'investissement. C'est quand même touchy, ouais. Et tu disais juste, tu as dit qu'il fallait avoir 1000 heures d'enseignement. Il faut qu'elles soient déclarées, comme tu disais tout à l'heure, sur Yoga Alliance. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on enseigne, on pointe un petit peu, quoi. On vient déclarer nos heures.
Tout à fait.
Ouais, d'accord. Donc, c'est 1000 heures qu'on a pris la peine de déclarer. Et on peut les déclarer d'un coup quand on se décide en disant, bah voilà, si. J'ai donné 2 heures de cours tous les jours pendant X semaines, pendant X mois ou...
Oui,
d'accord.
Si, après, c'est 1000 heures pour être ERIT 200, donc Experience Registered Yoga Teacher 200 Hours, et c'est 2000 si c'est ERIT 500.
Ouais.
En gros, tu les déclares en module aussi, et c'est important de savoir que si, par exemple, tu donnes des cours prénatales ou enfants, ça te convient vraiment de les déclarer à part, de spécifier quel type de yoga tu as enseigné. Parce que si après tu veux avoir une certification yoga pour enfants ou yoga prénatal, ça compte que les heures que tu as données de ce type de yoga spécifique. Sinon, moi par exemple, j'ai donné aussi des informations sur si c'était des workshops YACEP, si c'était des formations des profs, si c'est mes cours hebdomadaires, etc. Et une chose que j'avais oubliée pour les écoles, il faut aussi déclarer combien d'élèves tu as. Il y a un pourcentage spécifique des profs élèves. Et il faut aussi un processus d'admission de la personne. Donc il faut dire qui tu vas mettre, pourquoi, comment tu vas évaluer si la personne elle peut suivre ton programme ou pas. Donc tout ça certifie quelque part malgré tout, que ne soit pas n'importe qui et n'importe comment qui fasse du yoga, et surtout qui l'enseigne et qui crée des formations après.
Et quand tu dis donc ça prépare éventuellement après à être Data Doké ou à Calliope,
ça prépare au financement, mais aussi il faut savoir qu'en France, comme le yoga n'est pas reconnu, en fait légalement il faudrait être soit coach sportif, soit par exemple avoir fait un master en sport, etc., ou être kiné si on l'oriente plus thérapeutiquement, mais sinon il n'y a aucune certification. Et donc si je veux donner une formation, je dois être centre de formation, et pour être centre de formation, d'abord je dois me déclarer à la directe,
ouais.
Donc déclarer mon activité de formation. Pour ça, il faut aussi avoir un programme de formation avec des objectifs clairs pour, par jour, etc. Je viens de suivre, définir une formation sur création des centres de formation. Donc, c'est un processus aussi un peu intense. Mais les processus de Yoga Alliance, à moi, m'a aidé à comprendre le DataDoc et le Qualiopi.
Enfin, il y a des similitudes, en fait, dans le fait d'avoir une pédagogie, une organisation, un process, des documents, des points de passage, des points d'évaluation, s'assurer voilà, du parcours, du chemin que les élèves vont faire, s'il va y avoir les résultats, etc. Donc oui, c'est clair que... Enfin, je connais un petit peu, du coup, les normes pour faire financer des formations. Et effectivement, oui, c'est très... C'est assez lié quand même, ouais.
C'est ça, et puis tu peux te faire accompagner aussi pour faire les Qualiopi, et ça va permettre d'un côté soit aux élèves d'avoir un financement, soit à d'autres entreprises qui se dédient à la formation de prendre ta formation et de la vendre aussi. Donc tu peux aussi avoir des opportunités d'être répertorié. Ça peut te plaire ou pas, hein. Peut-être que je ne vais pas être dans un catalogue d'entreprise, mais... c'est quand même une opportunité d'avoir une diffusion majeure, vu qu'aujourd'hui, c'est vraiment un défi. Et pour moi, que je donne des formations qui sont présentielles pour le moment,
oui, de les remplir.
C'est un vrai défi de les remplir. Nous, on est en plus, on s'est fixé un maximum de 6 élèves parce que la salle, elle est pas géante non plus. Donc, on essaie de respecter la capacité de la salle. Donc, on tourne à 6 élèves depuis qu'on a ouvert.
Et justement, en fait, quand tu peux donner un yoga teacher training finalement, au final, t'es limité. Enfin, t'as un nombre de personnes limité ou tu peux avoir une salle de 20 élèves ou.
Ça dépend de qu'est-ce que tu as proposé à la Yoga Alliance, mais je pense qu'ils s'admettent jusqu'à un nombre d'élèves actuellement. Avant, ils ne savaient pas fixer le nombre d'élèves. Maintenant, oui, ça doit être... En gros, nous, par exemple, on avait choisi un pourcentage de maximum 15 élèves par prof. Et à partir de 15 élèves, il faudrait un deuxième prof qui soit présent, donc que les groupes soient gérés en binôme.
D'accord, mais donc s'il y a deux profs, c'est possible d'être plus que 15?
S'il y a deux profs, c'est possible qu'être plus que 15. Mais ça, encore une fois, c'est moi qui l'ai choisi pour maintenir une qualité.
Ouais.
Après, il y a des écoles qui un peu font pas très attention à ça. Et puis, je pense que ça dépend aussi un peu du type de yoga que tu enseignes et de qu'est-ce que tu peux gérer.
Ouais.
Je sais que certaines choses, j'ai besoin vraiment d'être là, de voir les élèves, de les accompagner personnellement et... Alors qu'il y a d'autres choses qui pourraient très bien se faire avec moins de personnes. Et puis, c'est fermer ma ligne. Je ne me suis pas encore lancée dans la formation en ligne, mais ça va bien arriver. mais c'est vrai que pour créer une formation de pranayama, ou pour créer une formation d'histoire et philosophie, ou même de pédagogie, on pourrait très bien avoir des formations à 100, 200 élèves avec des accompagnements différents.
Mais ouais, du coup, c'est sûr que 6 élèves, alors que tu pourrais finalement aller jusqu'à 15, c'est pas la même rentabilité non plus, quoi.
Ah non, non. Nous, on est vraiment pas rentable et on avait ouvert l'école en août, donc probablement on va devoir la fermer physiquement fin de cette année et on verra qu'est-ce qu'on trouve après, où est-ce qu'on,
qu'est-ce qu'on peut faire,
où est-ce qu'on va s'installer.
Et du coup, donc toi, je sais que tu n'as pas fait de, t'as pas fait de yoga teacher training en ligne, mais par contre, on en a vu quand même beaucoup se développer là ces derniers mois. Alors d'ailleurs assez vite. Alors quand j'entends tout ce que tu me dis sur tout le process, alors j'imagine que les gens qu'on développe, enfin les profs de yoga, je dis les gens, mais les profs de yoga qui ont développé un yoga teacher training en ligne, c'est quoi? C'est des gens, des profs qui avaient déjà des yoga, enfin le droit d'enseigner, enfin des yoga teacher training en présentiel et ils ont eu à mettre quelque chose à jour pour pouvoir enseigner en ligne. Ou ça peut être des profs qui sont partis de zéro et Yoga Alliance a facilité du coup tout ça pour pouvoir créer un yoga teacher training en ligne rapidement. Comment ça s'est passé ?
Non. C'est plutôt la première option. Pourquoi ? Parce que vous que Yoga Alliance avait actualisé les standards juste avant le Covid. je m'en doute que personne s'est dit bon, je vais faire maintenant la certification en ligne tout d'un coup parce que c'est un processus très long. Donc je pense que c'est plutôt le contraire. Tout le monde s'est adapté. En fait, Yoga Alliance aucune formation, même pas un YACEP, était certifiée si elle était 100% en ligne. La formation veut avoir des heures de contact et ça, par rapport aussi à cette statistique qui sont faites, à ces sondages qui sont faits, où la majorité des profs ont dit non, quand le yoga, traditionnellement, ça se passe beaucoup de maître à élève, il faut un peu de présence, il faut que les profs soient en contact avec l'élève en personne, au moins en partie du temps. Les profs principaux, les leaders trainers. Les autres profs, ils peuvent être à distance. Donc, les formations qui se sont adaptées en ligne l'ont fait avec une clausule qu'ils ont mis d'urgence, dans laquelle ils ont dit, OK, vous avez entamé déjà un teacher training, continuez en ligne. Et puis, ils l'ont rallongé il y a 2 ou 3 mois. Mm-hmm. Ils ont rallongé cette spécificité. Après, sincèrement, en connaissance des causes de la réalité, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de formations qui se passent plutôt en ligne et puis ils font une semaine de stage en présentiel et voilà, et c'est tout. Donc, comme je dis avant, il n'y a pas de contrôle de la part de Yoga Alliance sur qu'est-ce qui se passe après. Il n'y a pas de contrôle non plus sur les heures que tu enregistres dans le système. Donc, je pourrais dire que j'ai enseigné 3000 heures pendant cette année.
Ouais.
Ça passerait, donc il n'y a pas de contrôle à la fin. C'est l'honnêteté de chacun de suivre ça, et puis c'est l'amour de chacun pour que le yoga ne se perd pas, ne se déforme pas.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai que oui, on peut se poser des questions quand même. Et, et ces yoga teacher training, ça va continuer. Yoga Alliance, du coup, va faire perdurer cette option ou est-ce que c'était vraiment juste pour réagir à la crise sanitaire pour un petit peu protéger du coup les profs de yoga qui ont cette activité ou...
Je ne sais pas, je me pose la question aussi, je me pose la question d'un côté s'ils vont continuer, d'un côté parce qu'il y a une pression économique qui fait que tout le monde qui vivait de yoga et ici c'est encore très très nouveau, il y a très peu de yoga en France même si on passe le contraire. Mais aux États-Unis, c'est vraiment un studio à chaque coin de rue, beaucoup d'activités. Donc, je pense que tous ces gens-là, ils font pression pour que ça puisse se continuer même en ligne, en dépit parfois de tout, de la qualité, de toutes les autres choses, de que en ligne, on n'est pas tous capacités à les faire vraiment bien. Et puis il y a une deuxième raison, c'est qu'ils ont mis en place eux-mêmes un système qui grandit de plus en plus, des webinars, j'assiste souvent, hein, au moins une fois par mois, à ces webinars, à ces petites formations qu'ils proposent aussi, avec plein de profs de partout dans le monde. Et je crois qu'ils vont inclure de plus en plus l'online eux-mêmes, et que ça, le côté positif, de créer une vraie communauté. Donc avant, les gens qui étaient réunis seulement par la certification, par cette espèce de label qu'ils ont créé. Là, je commence à connaître vraiment les profs qui sont Yoga Alliance, à connaître vraiment les démarches, à avoir des webinaires gratuits, à avoir des ressources intéressantes. Et donc, j'ai suivi, par exemple, deux formations gratuites avec eux, avec les Yoga Sports College. Je pense que ça s'appelle, c'est un centre anglais qui sont très spécifiés sur les yoga lignes. Donc, ils font vraiment des petites formations sur comment s'adapter à l'enseignement en ligne, quels outils, etc., etc. Donc, non, je pense qu'ils ne vont pas arrêter tout d'un coup et je pense qu'ils vont quand même tolérer beaucoup plus que de ça qui était avant.
D'accord. Donc, à suivre de près pour voir comment tout ça va évoluer.
Tout à fait.
Est-ce que tu as le sentiment que on entend souvent que toute cette période de crise sanitaire, de confinement a fait alors à la fois il y a de plus en plus de gens qui se sont mis au yoga, mais il y aurait aussi de plus en plus de personnes qui s'orientent vers le job de prof de yoga. Je dis volontairement le job de prof de yoga parce qu'il y a les vrais passionnés qui ont cette vocation, et puis peut-être aussi d'autres personnes qui voient plutôt l'opportunité de devenir prof de yoga par rapport à, au fait que ce soit devenu un univers qui est en plein changement, en pleine mutation et qui se développe. Est-ce que toi, tu as le sentiment que cette période a accéléré le développement des gens qui veulent se former au métier de prof de yoga?
Très bonne question. Encore une fois, j'ai aucune idée. Personnellement, pour moi, ça a accéléré la prise de décision de donner que des formations, que je continue à donner quelques cours en ligne avec mes élèves qui sont fidèles, avec les gens qui j'aime bien parce que j'y tiens à eux. Mais pour moi, ça a accéléré la prise de décision de faire que de la formation. Aussi parce que tous les salles ont fermé, donc évidemment c'est une raison qui m'a posé la réalité. Puis je pense que aussi il y a un besoin humain de se faire du bien, effectivement. Il y a un besoin humain aussi de se dire bon, si on va mourir demain, qu'est-ce que j'aurais envie de faire?
Ouais, c'est vrai.
Bon, mais voilà, je vais essayer de le faire. Et puis qu'il y a aussi du temps pour se former, donc peut-être tous les gens qui avaient postposé les formations, ils se sont dit on va la faire maintenant parce que je peux la faire en ligne, parce que je peux la faire depuis la maison. Il y a plein d'aspects. Puis il y a un vrai besoin social aussi, des bien-être. Tu vois, quand j'ai commencé à faire du yoga, c'était quelque chose un peu de freaky.
Oui, c'est vrai,
c'était
que ça
pas,
a beaucoup évolué.
Ouais, tu vois, les termes à sanskrit, je cherchais en internet et ça n'apparaissait même pas. C'était vraiment super difficile. Alors que maintenant, tu cherches yoga, il y a je ne sais pas combien de résultats. C'est vraiment. Je pense que c'est en train d'être accepté par la société et j'espère que ça le soit de plus en plus. Et j'espère qu'il y a de plus en plus de profs, des pratiquants, mais aussi j'espère que le yoga ne perdra pas en authenticité. Ne perdra pas, tu vois, un bienfait et un tout ça qui vraiment fait du bien. En profondeur, une sagesse, qu'elle ne soit pas mal menée dans le chemin.
Et toutes les personnes que tu vois, toi, qui viennent en yoga teacher training aujourd'hui, est-ce que justement, en termes de répartition dans un yoga teacher training, est-ce qu'il y a plus de personnes qui veulent devenir prof et enseigner? Ou est-ce que c'est 50-50? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chercher autre chose, qui ne veulent pas du tout être prof, mais qui viennent pour autre chose? Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui en termes de répartition, toi, de ton côté?
Alors, c'est très différent dans chaque teacher training. C'est vrai qu'en plus, on a des groupes très petits. Donc, faire des statistiques, c'est un peu difficile.
Ouais.
Et c'est des personnes très différentes. Mais je pourrais dire, déjà, il y a beaucoup de filles. Pour le moment, j'ai eu la chance de former un seul garçon.
Ah oui.
Les restes, c'était toujours des femmes, oui. Puis, je crois que ça dépend beaucoup du teacher training. Mon teacher training, il est très orienté formation. Donc, je crois que quand même, il faut savoir qu'une formation, c'est quelque chose que tu fais pour enseigner aux autres, même si tu vas apprendre toi. Mais la mienne, elle est très orientée pédagogie, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très intéressés par les yoga et qui ont du mal à se dédier un moment pour soi dans la vie. Et beaucoup qui font, et ça, c'est un constant, vraiment, une reconversion dans sa vie et qui veulent chercher un métier qui ne les fait pas passer par burn-out ou par faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, qui puissent être aussi auto-entrepreneurs, qui puissent être son chef, qui puissent être un peu des spécialistes dans la matière, donc des gens qui ont peut-être déjà une inclination thérapeutique, une inclination sportive, ou une inclination mouvement ou art. J'attire beaucoup des danseurs circassiens, techniciens, etc. Et puis, dans les cours qui sont plus, par exemple, dans les formations courtes, parce que je propose une formation de vinyasa de senseur, mais aussi une formation de yoga aérien, une formation d'acro-yoga, etc. Donc là, il y a plus des profs qui ont déjà fait des formations, qui ont déjà commencé et qui n'ont pas ou assez, qui veulent développer d'autres outils et se spécialiser et aussi trouver d'autres publics. Mmh. Donc il y a aussi des gens qui cherchent à se nicher, comme tu dis toujours, qui cherchent à trouver un public différent, ou même des gens qui ont des projets d'ouvrir un centre de retraite, d'ouvrir, par exemple, un spa ou des lieux de bien-être. Donc, il y a beaucoup de projets en marche. Je pense que personnel et professionnel, les deux.
Mm-hmm. En fait, ce que je voulais faire ressortir dans cette question, c'est que, du coup, donc moi, j'accompagne les profs de yoga pour, entre autres, créer des programmes en ligne. Et j'ai lu justement une étude il n'y a pas très longtemps. Alors, je trouve beaucoup d'études sur le yoga aux États-Unis, évidemment, plus qu'en France, mais justement, on voyait bien que, je me souviens plus de la répartition exacte, mais on voyait qu'il y avait quand même une partie de gens qui venaient, non pas dans l'optique, in fine, d'enseigner le yoga et de devenir prof de yoga, mais parce qu'ils étaient à la recherche de quelque chose de personnel, hein, voilà, chacun vient chercher ce qu'il pense qu'il va trouver, en tout cas. Et du coup, je voulais juste mettre en avant le fait que bah, c'est quand même des personnes qui cherchent en elles une transformation, qui cherchent en elles quelque chose de nouveau, quoi, et qui sont prêts à investir quand même le prix d'un yoga teacher training. On est souvent près de 2000, 2500, voire même plus parfois. Voilà, je voulais mettre en avant le fait que on peut très bien créer des programmes de yoga à partir du moment où ils vont avoir un effet transformateur sur une des problématiques que peut avoir la personne et que ces gens-là sont prêts à investir de l'argent en fait pour se transformer, pour arriver à leurs objectifs, pour arriver à une situation désirée. Et quand on hésite parfois quand on crée un programme conséquent, hein, j'entends pas un petit PDF à télécharger, hein, j'entends un programme de coaching collectif avec des modules de formation, des vidéos, de l'accompagnement, etc., même si c'est en ligne, on n'est pas obligé de vendre notre programme à 97€, à 257€, si c'est vraiment quelque chose de transformateur. La preuve que, il y a des gens qui sont prêts à payer des yoga teacher training, pas forcément pour être certifiés, pour être prof, mais pour, faire quelque chose qui va les transformer ou qui va leur apporter ce qu'ils sont venus chercher. Et donc, comme quoi, il ne faut pas avoir peur de créer des programmes consistants qui sont en marge, hein, d'un yoga teacher training, évidemment, mais il y a toujours des gens qui sont prêts à investir sur eux des sommes importantes à partir du moment effectivement où on répond à une promesse de transformation et où on donne les outils pour les emmener à une situation désirée. Donc je voulais aussi mettre ça en avant.
Oui. Tu as totalement raison, Cécile, mais il faut bien avoir le focus. Et je le dis parce que je me trouve avec ce problème parfois dans les formations. Il faut bien avoir le focus qui différencie entre une formation des professeurs et un processus thérapeutique.
Exactement.
Pour une raison très simple. Quand tu fais un processus thérapeutique, tu es là pour être aidé, toi, sur toi-même. Mmh. Quand tu fais une formation, tu es là pour être aidé à enseigner, à guider les autres. Que tu peux pas être guidé sur toi-même, tu peux pas être centré sur toi et ta problématique tout le temps. Tu dois avoir être déjà dépassé ça, être un adulte bien formé, travailler sur toi suffisamment pour arriver à ça.
Mais pourtant, t'as quand même beaucoup de personnes qui vont dans les yoga teacher training pour ça, parce qu'ils viennent chercher ça. Mm.
Oui, et ça serait génial de créer plus d'expériences comme ça et de les spécifier aussi, de dire ça c'est l'endroit.
Ouais, voilà, de les décorréler d'une formation qui est plus justement destinée à enseigner et à transmettre la pédagogie de l'enseignement, parce que comme tu dis, on n'y va probablement pas avec déjà le même regard sur soi, les mêmes attentes, etc. C'est exactement. Et ben justement, moi j'aide les profs de yoga à créer plutôt des programmes qui vont dans le sens de la thérapie plus que dans le sens de l'enseignement et de la pédagogie.
Et bravo pour les faire. C'est nécessaire.
Et alors, juste dernière petite question, parce que justement, là, on parlait un petit peu des prix des yoga teacher training. Alors, comment on fixe le prix d'un yoga teacher training? C'est une bonne question, non?
On regarde son porte-monnaie.
on voit de combien on a besoin. Et...
c'est ça. Non, on les fixe parce qu'on doit faire un budget pour Yoga Alliance aussi. On doit budgétiser un peu la formation. Donc d'abord, on doit savoir combien ça va nous coûter. Nous coûter en temps, à nous, en tant que faire les processus de création, les lieux où on va donner les training, si c'est un lieu physique ou si c'est online, ça serait la même chose parce qu'il faut de toute façon bien un lieu pour filmer des équipements,
ouais.
Les matériaux qu'on va devoir acheter ou qu'on va devoir utiliser, les matériels aussi à niveau... si on a par exemple des logiciels qui vont nous servir, comme j'ai des logiciels pour l'anatomie, ou parfois si on a des logiciels aussi pour faire les suivis pédagogiques des élèves, tout ça c'est quand même ça a un coût. Les profs, si tu as une équipe, il faut savoir combien tu vas payer les profs, à part toi qui fais tout le travail de création, si quelqu'un va les faire pour toi, c'est pareil. Et puis il faut savoir qu'il y a toujours des questions techniques, donc nous par exemple on a aussi une personne qui va résoudre toutes les questions techniques, qui va par exemple connecter les projecteurs quand ils ne marchent pas, ou qui va mettre les dossiers vidéo qui sont très lourds, chercher la façon de les réduire et les implémenter. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir, et je pense qu'il faut aussi faire un peu des quel est le prix dans l'endroit où tu enseignes pour adapter les prix. Donc pas dans les cas dans les teacher training, c'est un peu spécial, mais dans les cas d'une retraite ou d'un workshop ou des formations courtes, si je donne la même formation au Mexique ou au Sénégal, comme ça m'est arrivé de faire, je ne peux pas faire payer la même quantité parce que tout simplement je n'aurai pas de public ou je vais avoir très peu de public. Et puis parce que moi-même j'ai des valeurs que je tiens de respecter, que c'est de m'adapter à que tout le monde puisse accéder. Mais en France, nous, on est par exemple maintenant à, je pense, 15 ou 16 euros de l'heure pour les formations longues et 20 euros de l'heure pour les formations courtes. Mm-hmm. Donc, les prix sont plus élevés qu'un cours, normalement, parce qu'un cours a beaucoup moins de préparation et peut admettre beaucoup plus de personnes et donne beaucoup moins d'informations. Nous, on donne en plus de 30 ouvrages dans un Google Drive. On a beaucoup de documents qui vont avec. Donc, tout ça a fait monter le prix de l'heure de formation. Après, il y a des formations qui sont vraiment pas chères. Et je vous invite à regarder bien de près qu'est-ce que la formation propose. Est-ce que ça a vraiment une qualité ou pas? Et puis il y a des formations qui sont très chères aussi parce que par exemple elles se font dans des endroits très luxueux ou parce que tout simplement elles sont dédiées à un public très réduit. Il faut savoir aussi le nombre d'élèves, combien d'attention vous allez avoir. Et
c'est vrai.
Voilà. Et si ça inclut la nourriture, le logement, tout ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de formations qui peut-être incluent la nourriture et le logement et d'autres que non.
Et il n'y a pas de tarif imposé par Yoga Alliance, du coup ?
Non, pas du tout.
Donc c'est vraiment tes coûts, ton marché, quoi, on va dire, et puis après, ce que finalement toi tu as envie de fixer en fonction de comment tu es capable aussi de défendre ton prix, de l'expliquer et de la marge que tu veux avoir, quoi. C'est vraiment toi qui as la main.
C'est vraiment toi. Après, par exemple, nous, dès la première formation à CEDLAC, qui est la troisième, on a augmenté le prix à chaque édition parce que d'un côté, on a réduit le nombre d'élèves, évidemment, et puis parce qu'on a plus d'expérience et la formation s'améliore. Donc la personne qui achète la formation achète quelque chose qui est mieux que la première édition.
Ouais.
Et puis pour s'adapter un tout petit peu aussi au prix des marchés, parce qu'on était carrément trop en dessous, on était trop pas cher. Donc oui, je trouve que c'est important. Et puis pour te laisser un peu des souffles pour pouvoir faire des offres, comme tu fais très bien, des prix spéciaux, des prix différents selon les moments où tu t'inscrives, parce que si on s'ajuste beaucoup trop au prix, après on pourra jamais réduire les prix.
Tu peux pas faire d'early bird, de choses comme ça, si tu es déjà trop bas de base, bien sûr. Ouais. Bah en tout cas, c'était passionnant. Rosa, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que ça aura éclairé beaucoup de profs de yoga, créé des vocations peut-être, je sais pas, devant la montagne de travail que ça demande. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça aura eu le mérite d'apporter de la richesse sur tout ça et de mettre en lumière un petit peu tout ce parcours. Avant de se quitter, est-ce que tu veux nous partager ton actualité, tes projets et puis où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Bon, mais déjà, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup, Cécile, parce que moi aussi, je te suis depuis un bon moment. Je trouve génial ça que tu fais. Et c'est pas le cas pour toutes les personnes qui font du marketing. Je suis vraiment allergique au marketing.
Oui, c'est pour ça que c'est mon job, c'est de vous faire aimer le marketing à toutes les personnes qui détestent le marketing.
Ah, mais tu le fais très bien, c'est vraiment adapté. Donc, pour parler un peu de mes projets et aussi pour proposer, déjà, je vais proposer aux gens qui ont envie de continuer à s'informer sur les parcours Yoga Alliance de cliquer sur les liens que j'envoyerai plus tard à Cécile.
Je le mettrai dans les notes de l'épisode.
Voilà, donc vous trouverez un document avec toutes les infos et puis aussi mon contact si vous voulez me contacter. Et mes projets sont déjà créer une formation des 300 heures qui sera plus accès thérapeutique, plus hatha, plus yin, plus douce. De trouver un nouveau lieu pour mon école parce que les loyers sont très chers à Marseille et ça ne me correspond plus en fait de vivre en ville. Mmh. C'était un peu ma découverte du confinement successif, troisième confinement. Peut-être en France, peut-être pas en France, peut-être moitié du temps en France, moitié non. Mais ça ne veut pas dire que j'arrêterai de donner des formations en France, seulement que peut-être j'aurai pas l'école ici tout le temps.
Ouais.
Et puis j'écris un manuel de yoga aérien et je l'illustre en aquarelle digitale. Rien à voir.
C'est quoi l'aquarelle digitale ?
L'aquarelle digitale, c'est un processus très joli dans lequel tu peux peindre digitalement ou tu peux peindre manuellement et puis scanner les aquarelles, créer des couches et donc tu peux créer des illustrations très jolies avec ça. Sinon, j'ai plein d'autres formations à écrire, donc je suis encore dans l'écriture des nouvelles formations et dans les qualiopies. Qui est très lourd, ça prend.
On sait maintenant tout ce qu'il y a derrière, sur une partie des choses en effet.
Tous ces critères de qualité et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, et sinon j'aimerais beaucoup mettre des formations en ligne en place, créer une petite école très, très différente de ça qui existe, un peu à le style des Domestika. Je ne sais pas si tu connais Domestika. J'ai découvert Domestika grâce à l'aquarelle digitale d'ailleurs.
D'accord.
Je viens d'une famille d'artistes plasticiens, donc c'est un site qui propose des petits cours, des petites formations d'arts plastiques avec plein d'artistes de partout, et tu achètes cette formation de façon individuelle et donc j'ai plusieurs formations que j'ai achetées cette année à Domestika et j'aimerais créer quelque chose pareil en yoga. Donc, par exemple, une petite formation sur l'énergétique, une petite formation sur respiration pour plongeurs, des choses très, très concrètes. Voilà. Et je vais suivre la formation de Cécile aussi dans l'édition qui commence maintenant en juin. Prochainement.
Exactement, dans la super nouvelle promo que je viens d'accueillir. Super. Mais écoute, merci beaucoup Rosa pour tout ça. J'ai été ravie d'échanger avec toi, ravie de t'accueillir. Et puis on te retrouve très vite. Merci. Bye bye.
Bye bye. Merci beaucoup Cécile.
Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter YogiBiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast. Et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches YogiBiz Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur « S'abonner » et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section « Évaluation et avis ». Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes YogiBiz Podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.